Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, bonjour à celles et ceux qui nous écoutent en se levant tôt à la radio et à tous les autres qui préfèrent nous écouter en ligne ou en podcast. Tous les lundis, c'est l'actualité littéraire dans le réveil culturel. Et aujourd'hui, je reçois Philippe Besson pour son dernier roman, Un certain Paul Darigrand. C'est aux éditions Julliard. Une histoire d'amour de jeunesse, eh oui. Le réveil culturel est préparé par Corinne Amar, réalisé par Vincent Abouchard, avec aujourd'hui Marie Le Peintre à la prise de son.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Philippe Besson.
Bonjour Toufik Hakem, bonjour à tous.
Une histoire d'amour de jeunesse, mais on peut aussi présenter autrement votre dernier roman. On peut dire que c'est un mélodrame à caractère autobiographique qui se déroule à la France des années 80, qui a pour protagonistes principaux deux étudiants qui s'aiment passionnément et en secret. Et en même temps, c'est la chronique d'un amour au temps d'un nouveau choléra. L'un des deux protagonistes, le narrateur, c'est l'auteur lui-même. C'est vous, Philippe Besson, il y a 30 ans, quand vous aviez 22 ans. L'autre, un peu plus âgé au moment des faits, donne le titre au roman. Qui est donc ce certain Paul Darigrand ?
Paul Darigrand, c'est quelqu'un que je croise au début de l'automne 1988, alors que je commence ma dernière année d'études à l'université de Bordeaux. Je fais ce qu'on appelait à l'époque un DESS, je crois qu'aujourd'hui on dirait un Master 2, je faisais ça en droit social, et lui fait un autre DESS, et ce jour-là, de la rentrée, je le croise à peine une seconde, nous nous cognons à la sortie de la salle de classe, et il n'y a rien de plus, je ne sais pas qui est ce jeune homme.
Comment il est ?
Il est grand, brun, avec des boucles brunes assez lourdes, un regard noir, très noir, dont on ne sait pas s'il contient du dédain ou du désir. Et voilà, il est déjà impressionnant pour moi, qui suis en plus un petit gabarit et qui a tendance à m'excuser tout de suite. Bon, donc lui, il en impose. Il a quelque chose, il a une présence, il a une allure, c'est une évidence. Et deux heures plus tard, ou trois heures plus tard, je le retrouve par le plus grand des hasards, ce qu'on appelait au Resto U, vous savez, c'est un restaurant universitaire, où tout le monde a choisi de se réunir parce que c'est le jour de la rentrée, qu'on est sociable et qu'on fait voilà ce qu'on a à faire. Et je m'assois et je vois une jeune fille de mon DESS qui vient s'asseoir devant moi. Et lui surgit, d'on ne sait où, mais quand je dis d'on ne sait où, c'est vraiment ça. Je ne sais pas où il était l'instant d'avant. Et il dit non, je vais m'asseoir là parce qu'on avait dit tout à l'heure qu'on déjeunerait ensemble. Et je le regarde et je me dis, ce type, je ne sais pas qui c'est, son mensonge est un mensonge éhonté. Et je suis harponné, amoureux à la première seconde. C'est-à-dire, je me dis, quelqu'un qui est capable d'avoir cette malice, cette audace, cette malignité, cette capacité à dire un formidable mensonge juste pour s'asseoir là en face de moi, c'est sans doute qu'une histoire commence.
Alors, cette histoire, c'est une histoire d'amour. Je le disais, c'est une histoire d'amour de jeunesse et c'est raconté comme tel d'ailleurs. Comme cela a été tellement fait en littérature. L'auteur se souvient d'une passion amoureuse. L'auteur se souvient de l'âge du plaisir et de l'insouciance contrariée par les vicissitudes de la vie. C'est très classique. En effet, et vous avez même l'audace, Philippe Besson, pour nous entraîner dans ce roman, de nous faire le coup, alors on ne peut plus classique, de la vieille photo de jeunesse. Bien sûr, on tombe dessus par hasard, bien sûr, et évidemment lors d'un déménagement. Et c'est cette photo vous représentant avec un autre jeune homme, qui va être donc le point de départ de ce récit, de ce roman. C'est vrai, ça commence d'une manière classique, vous inscrivez cette confession romancée de votre amour de jeunesse dans ce qu'on peut appeler un genre littéraire, en y respectant les codes d'ailleurs, avec quand même ce léger détail. Ce coup de la photo, nous prévenez-vous, on nous l'a déjà bien sûr fait, mais bientôt ça sera fini. Ça sera fini parce que désormais, les souvenirs tiennent dans des téléphones portables et que nul ne sait ce qu'elles vont devenir et si elles vont durer, ces photos. Alors, vous ne faites pas que vous inscrire dans un genre, vous le questionnez en même temps, vous l'empruntez comme si c'était la dernière fois.
Oui. Alors le coup de la photo, ça ressemble à un coup, sauf que c'était la réalité, la vérité. C'est-à-dire que j'allais déménager et vous savez, on a des boîtes à chaussures comme ça en haut des placards et comme ils sont en haut des placards ou des armoires, on n'y va jamais, on ne les trouve pas, on s'y intéresse pas. Puis quand on déménage, il faut faire le tri dans les affaires. Et du coup, le tri dans les souvenirs, ce qui est toujours un truc un peu déchirant. Bon. Et là, j'ouvre la boîte à chaussures et je retrouve retrouve ces photos que je n'ai pas vues depuis longtemps pour une raison simple. C'est parce qu'effectivement, aujourd'hui, tout tient dans un téléphone portable. On a perdu cette habitude d'avoir ces photos en noir et blanc ou en couleur avec des rebords, bon, ou crânelés, bon. Et je tombe sur cette photo. Je la reconnais évidemment en une seconde. Je sais qui sont les deux jeunes hommes, les deux garçons sur la photo. Et c'est terrible parce que vous êtes renvoyé en une seconde à votre passé, à vos 20 ans, alors que vous n'avez pas prévu cela. Donc, vous êtes un peu dérouté, troublé, décontenancé. Et à ce moment-là, je me dis, il est peut-être temps de raconter cette histoire-là. Mais ce n'est pas seulement ça l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est cette phrase que j'ai mise en exergue du livre, qui est une dernière phrase sublime, magnifique, du livre d'Annie Ernaux, Les Années, qui est « Sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais ». Et au fond, quand je trouve la photo, ça fait écho à cette phrase-là que je trimballe déjà depuis longtemps et que j'ai d'ailleurs mise à l'épreuve en écrivant Arrête avec tes mensonges il y a 2 ans. C'est-à-dire que la jeunesse s'enfuit, elle est presque définitivement enterrée. Et si on veut s'en souvenir encore, si on veut en garder un peu de la substantifique moelle, de la ferveur et de la fièvre qui l'animait, alors il faut en parler maintenant, parce qu'après ce sera trop tard.
Un certain Paul Darigrand, c'est votre roman le plus littéraire aussi, Philippe Besson. Parce que vous racontez, au-delà de l'histoire d'amour, on va y revenir, votre état d'écrivain. Comment des personnages réels que vous avez transformés dans des fictions, et après ces fictions ont été adaptées au cinéma pour certaines d'entre elles, donc une autre couche de fiction, et ben comment vous essayez maintenant de les retrouver tels qu'ils étaient en vrai?
Oui, je montre l'envers du décor. C'est-à-dire que, mais j'ai toujours dit la même chose. Moi, je me suis longtemps défini comme un romancier, quelqu'un qui fait fiction, quelqu'un qui fait appel à son imagination, quelqu'un qui raconte des histoires. J'adore raconter des histoires. Mais j'ai toujours dit en disant cela que, évidemment, aucun romancier au monde, ni moi ni un autre, ne peut écrire ses histoires sans emprunter à sa vérité intime, à ce qu'il a connu, à ce qu'il a traversé, à ce qu'il a éprouvé, à ce qu'il a ressenti. Bien sûr qu'il y a des épisodes de nos vies, mais on noie ça dans des histoires fictionnelles, on se dissimule derrière des rideaux, on avance un peu masqué.
Et
on
là,
porte,
vous faites voilà. Le contraire.
Et là, je fais le contraire. C'est-à-dire, je dis, je vais vous montrer la réalité derrière cette fiction, je vais vous montrer l'envers du décor, et je vais vous expliquer que ce que je vous ai raconté jadis empruntait à une vérité intime profonde. Et vous évoquiez par exemple son frère, puisque c'est devenu le film de Chéreau. Ouais. Son frère, je racontais l'histoire de deux frères dont l'un tombait malade et moi j'étais le bien portant. J'étais celui qui accompagnait l'autre vers la mort.
Alors voilà. C'est le contraire.
Et là, je vous dis, en fait, le mourant, c'était moi.
Donc vous racontez en plus les mots qui ne viennent pas quand il faut décrire à la précision, la passion des sentiments, la fièvre des corps. Ça donne des passages magnifiques comme celui-ci. Je voudrais tant savoir écrire, écrire exactement, écrire parfaitement à propos de ça, ces moments, tout ce qui se tenait dans ces moments, écrire à propos d'une certaine lumière tombée un jour à l'oblique sur son visage, à propos d'une odeur dont j'ignorais la composition mais dont je savais qu'elle était la sienne, écrire sur des gestes qui lui échappaient et qui instantanément me foudroyaient. Je voudrais trouver les mots justes, absolus, afin qu'on sache ce que j'éprouvais alors, mais je ne sais pas. Je n'y arrive pas. C'est inexprimable par moi. Avec des mots, c'est toujours tellement moins que ce que c'était. Voilà la pire des frustrations. Non, je ne sais pas écrire ça. L'écriture comme il faudrait. Mais c'est incroyable que vous écriviez ça. Et en même temps, vous savez très bien que vos lecteurs ressentent exactement ce que vous ressentez.
Mais parce que justement, je voulais donner à mesurer ce que c'est ça. C'est-à-dire que, vous savez, vous êtes devant quelqu'un et ce quelqu'un vous regarde d'une certaine manière. Il y a dans son regard sombre une souffrance, un élan, une ferveur, quelque chose. Vous savez ce que c'est quand vous voyez ce regard, vous reconnaissez ce qu'il y a dans ce regard, puis vous voudriez le raconter et vous n'y arrivez pas. C'est-à-dire les mots sont insuffisants, parce qu'il y a aussi le frisson que vous avez éprouvé, il y a aussi l'environnement, l'endroit où c'était, le café, le bruit dans le café, le léger tremblement de la paupière, ces choses-là. Et vous voudriez raconter tout ce qui se tenait dans cette microseconde, dans cette nanoseconde, et vous n'y arrivez pas, parce qu'il faudrait des centaines de pages pour y arriver. Et vous vous dites, mais si je le dis, je suis certain que le lecteur saura que ce à quoi je fais référence, parce que lui-même, ça lui est arrivé. Parce que lui-même, le lecteur ou la lectrice s'est trouvé face à un regard, qu'il a vu dans ce regard quelque chose de, qui l'a troublé, qui l'a ému, qui l'a emporté quelque part. Et il sait que c'est ineffable, que c'est inexprimable, que c'est une chose comme ça en suspension, mais c'était magique et ça a changé la trajectoire de son existence.
Voilà, maintenant, quand je dis Philippe Besson avance sans masque, il est démasqué, je ne parle pas seulement de vos amoureux de jeunesse, hein, je parle aussi de votre métier d'écrivain.
Oui, mais parce que j'essaie de raconter comment ça se fait les livres, comment ça arrive les livres, de quelle matière ils sont fabriqués, avec quoi ils me portent ou je les porte. Non pas pour raconter une fabrication, mais pour dire que c'est avant tout une aventure humaine et une aventure intime, incroyablement intime, avec l'espoir que précisément cet ultra-intime deviendra de l'ultra-universel.
Voilà, mais il y a d'abord cette histoire d'amour avec ses incroyables silences, ses incroyables gestes. Si peu aura été dit en mots dans cette relation, tant aura été dit en gestes. C'est vertigineux, c'est ce que vous écrivez. Donc c'est une histoire d'amour qui épuise les codes d'une romance gay avec plutôt élégance. Cela se passe pas dans un campus universitaire, comme on pouvait s'attendre, mais presque. Pour les héros, on a le beau gosse surfeur et l'intello à lunettes, un casting parfait pour une adaptation au cinéma. Et pour la dramaturgie, l'un des deux amants aime aussi une jeune fille. Ça rend encore plus incertaine l'issue de cette histoire d'amour naturellement condamnée au secret. Mais vous y introduisez un autre élément de dramaturgie, la maladie, et un autre décor, l'hôpital. Le héros va peut-être mourir, et mourir jeune, et pas de la maladie qui est en train de décimer la jeunesse gay et ses amis, c'est ça qui est incroyable.
Ouais. D'abord, c'est héros, c'est Thanatos, c'est évidemment l'amour et la mort, c'est évidemment le corps qui exulte, le corps dans la sensualité d'un côté, de l'autre côté, le corps dans la souffrance, dans l'inquiétude, le corps mis à l'épreuve, c'est ça que ça raconte, et ça se passe au même moment, c'est-à-dire, je dis à un moment, finalement, je suis tombé malade juste après être tombé amoureux, c'est toujours une histoire de chute. Alors, il y a des chutes délicieuses et des chutes plus dangereuses. Et c'est vrai qu'on est à la fin des années 80 et que moi j'appartiens à cette génération sacrifiée, c'est-à-dire j'appartiens à la génération de ceux qui ont eu 17 ans au milieu des années 80 et qui n'ont pas eu le temps d'en avoir 22 ou 23 ou 25 parce que ça a décanillé très fort et très vite. Moi je nous vois souvent comme une ligne de jeunes gens comme ça, de jeunes soldats qui seraient montés à l'assaut sur une colline, mais en haut de la colline il y avait les snipers et les balles sifflaient et c'était des balles réelles et les gens tombaient. Et il y a beaucoup de gens qui sont tombés à ce moment-là, tous ceux qui ont vécu cette époque peuvent dire les noms qu'ils ont dû rayer dans les calepins ou ceux qu'on a écrits sur des tombes qu'on va visiter de temps à autre. Et donc, quand effectivement je suis devant ce médecin et que ce médecin me dit, avec une expression un peu bizarre, il y a une anomalie dans votre sang, un truc qui vous glace un peu, évidemment. Évidemment, mon premier réflexe, c'est de me dire « donc, moi aussi ». Et puis non, dans cette époque...
Même si ça y ressemble.
Oui, bien sûr, mais c'est pas ça. J'échappe à la malédiction de l'époque, si je puis dire, à la malédiction des garçons aussi de l'époque. Mais c'est effectivement une maladie un peu insaisissable, puisque je n'ai plus de plaquettes dans le sang. Ça veut dire que je ne coagule plus. Ça veut dire que je risque l'hémorragie à chaque instant. Voilà, et que donc j'ai cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce que tout peut s'arrêter à n'importe quel moment. Il faut rentrer dans un long tunnel de soins, de traitements qui tous les uns après les autres échouent.
Et cette épreuve va être aussi l'occasion de prouver cet amour naissant de part et d'autre.
Oui, parce que au fond, alors d'abord on se pose la question de savoir si le corps répond, si le corps est somatique, c'est-à-dire on se dit est-ce que finalement quand je tombe malade, c'est une façon de dire que je culpabilise, que parce que cette transgression, parce qu'aimer un homme marié, parce qu'aimer dans l'ombre, aimer dans la clandestinité, ça serait pas bien, ça serait immoral, et que donc je serais rappelé à l'ordre, ou alors on se dit mais l'autre qui s'éloigne, si je le rattrapais un peu avec cette maladie-là, peut-être si je le gardais encore un peu avec moi avec cette maladie-là. Donc il y a toutes ces questions qui se posent, et puis encore une fois le corps mis à l'épreuve. Donc c'est vrai qu'en même temps ça va nous rapprocher parce que lui à ce moment-là est parti dans une autre ville et on va commencer à se parler la nuit au téléphone à l'hôpital. Et je crois que
surtout parce qu'il n'aime pas l'hôpital, il n'aime pas.
Non,
ce
il n'y
décor.
Vient jamais. Ouais, ouais. De ça. Et c'est vrai que cette distance téléphonique, si je puis dire, va créer une proximité sentimentale incroyable. C'est-à-dire qu'au fond, peut-être dans les mots échangés, dans le combiné du téléphone à la nuit tombée, il y a plus d'amour que dans les corps qui s'étreignent. Peut-être que les corps qui s'étreignent, c'est normal, on a 20 ans, on baise, voilà. Là, il y a quelque chose qui se joue et qui est peut-être un truc tout bête qui s'appelle le sentiment.
Voilà, c'est un amour de jeunesse. Ce sont les années 80, et leur série impitoyable. C'était l'époque où le bicentenaire était fêté avec un gigantesque spectacle de Jean-Paul Goude aux Champs-Élysées. C'était aussi l'époque de Boum Boum, Cha Cha Cha.
Réveil culturel. Toufik Hakem.
Quel lien entretenez-vous avec les chansons de vos 20 ans, Philippe Besson, ou les chansons de vos amours de jeunesse? Puisqu'il est aussi question de cela dans votre dernier roman, Un certain Paul Darry Grand, paru aux éditions Julliard. L'histoire d'amour sert aussi à un inventaire de ce qui a constitué la culture de vos 20 ans. Hervé Guibert en littérature et le top 50 dans les clubs. Comme Niagara, là.
Absolument. Je suis comme tout le monde, moi, au fond. C'est-à-dire que les chansons, elles nous accompagnent à chaque période de nos vies. Et souvent, on les associe à un épisode particulier. Alors, vous voyez, par exemple, cette chanson qu'on a écoutée, « L'amour à la plage », de Niagara, avec la chanteuse Muriel. C'est une chanson comme ça, très joyeuse, qui marque vraiment la fin des années 80, qui est un symbole de ça. C'est toute l'époque d'A.O. et tout ça. Et en même temps, moi, je me souviens de l'avoir vue sur un petit poste de télévision grésillant, dans une chambre d'hôpital, tandis qu'on était en train de me faire une ponction sternale. C'est-à-dire tandis que quelqu'un était en train de me ponctionner de la moelle osseuse pour savoir si j'allais survivre ou pas. Et donc j'associe cette chanson à ça. De la même manière, il y a une autre chanson que j'évoque dans le livre qui est « Sign Your Name » de Terence Trent D'Arby. Et ça, je l'entends sur un poste de radio le matin de la première nuit avec Paul. C'est dans une maison de vacances à l'île de Ré. Je suis là dans la cuisine de cette maison de vacances et il y a la radio et cette chanson est diffusée. Donc, les chansons, elles nous accompagnent. Truffaut faisait dire ça à Mathilde, son personnage de la femme d'à côté, jouée par Fanny Ardant. Elles sont bêtes, les chansons, mais elles sont pas si bêtes que ça, parce qu'elles disent qu'on a été heureux ou qu'on est heureux. Elles disent ne me quitte pas. Elles disent qu'on a envie de garder les gens. Et elles racontent ce qu'on est, racontent nos vies. Donc voilà. Et la littérature, Guibert, oui, bien sûr. Parce que, à ce moment-là, en 88-89, je rentre dans une librairie et j'achète ce livre qui s'appelle Les Gangsters d'Hervé Guibert. Et j'ai déjà cette passion pour lui. J'ai lu Mes parents. Il n'a pas encore évidemment écrit le triptyque sur le sida qui fera, hélas, sa gloire. Et en même temps, voilà, dans les livres de Guibert, tout d'un coup, j'ai reconnu quelque chose de moi. C'est la première fois qu'en littérature, je me dis, mais c'est très étrange cette histoire, parce que voilà un type que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré et qui parle de moi. Comment c'est possible? Je découvre que les livres, ils parlent de nous. Et c'est Guibert qui me fait prendre conscience de ça. Vous voyez, c'est comme les chansons. Ça parle de nous. Ça parle de quelque chose de profond qu'on n'aurait pas su déterminer ou nommer. Voilà ce que ça raconte.
C'est donc l'histoire, l'époque. Parlons maintenant de la géographie de ce roman. Philippe Besson, un certain Paul Darry Grand. C'est la France des villes de province.
Hein. Oui, absolument.
Paris n'apparaîtra qu'à la fin du récit. Paris, je dirais même, signifie la fin de l'histoire.
Absolument. Paris, c'est la fin de l'histoire. L'histoire, c'est Bordeaux, fin des années 80. À ce moment-là, Bordeaux, c'est une ville sombre, hein, c'est des murs de suie. Aujourd'hui, c'est devenu une ville blonde, c'est une ville écolo, c'est une ville où les rues sont maintenant rendues aux piétons. C'est une ville qui a redécouvert son fleuve, la Garonne. À l'époque, pas du tout. On n'allait pas au bord du fleuve, il y avait de la bagnole partout. Bon, c'était une ville qu'on disait de la bourgeoisie décadente. Bon, donc, moi, je viens de là. J'avais fait ma prépa HEC au lycée Montaigne, cours Victor Hugo. C'était vraiment une façade de prison. Bon, j'habitais dans une chambre d'étudiants, dans un hôtel particulier qui appartenait à une vieille caldoche qui était rentrée en métropole. Voilà, c'était ça. Et puis, rue judaïque, absolument. Et puis, il y a cet échappatoire vers l'île de Ré déjà, parce que l'île de Ré, c'est le territoire de mon enfance. Moi, je suis né en Charente, et donc, quand vous êtes charentais, le littoral le plus proche, c'est l'île de Ré. Et voilà, je me souviens du bac de l'île de Ré, parce qu'à l'époque, quand je suis allé la première fois, il n'y avait pas encore le pont, bien sûr. Et l'émerveillement, l'éblouissement de découvrir la mer là, et de prendre un bateau et de traverser pour aller de l'autre côté. Et donc, je dis à Paul et à d'autres, allez, on va partir dans l'île de Ré. Sauf qu'on y va en hiver, en décembre, et qu'ils voient un truc totalement désolé, il pleut partout, enfin c'est atroce, donc ils ont l'impression que j'aurais survendu le truc. Et moi, je suis heureux, parce que je me dis, dans ce territoire-là, il peut se passer quelque chose. Je crois que la géographie dit aussi quelque chose de nous. Les lieux, c'est des liens, les lieux, c'est de notre mémoire, les lieux, ça raconte ce qui nous est arrivé. Donc, et je ne peux pas écrire, d'ailleurs, si je ne connais pas le lieu du livre.
Un livre par an, une rencontre tous les hivers, ça devient un rituel. Philippe Besson, ça dure déjà depuis quelques années.
Et presque 20 ans, oui.
Et pourvu que ça dure encore. mais cela veut dire que vous écrivez vite.
J'écris tout le temps, d'abord. Et j'écris, en tout cas, j'écris dans l'élan, j'écris dans la ferveur. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, je ne peux pas écrire dans la difficulté, je ne peux pas écrire contre, je ne peux pas écrire en me disant, ah là là, j'y arrive pas, je rature, je corrige, je refais, je reprends. Ça, je ne sais pas faire du tout. J'ai besoin que ça soit fluide, que ça coule comme une eau de source. J'ai besoin que ça avance. Et j'écris d'ailleurs le livre dans l'ordre où il sera lu. Je ne peux pas écrire la fin avant le début, le milieu, après je sais pas quoi. Pas du tout. J'avance comme ça.
Et ça reste un roman, ça reste toujours des romans. Il y a de la romance dans ces faits de... Parce que là, vous racontez le récit de votre jeunesse.
Là, alors évidemment que c'est essentiellement autobiographique. Mais il y a du roman pour au moins deux raisons. La première, c'est que j'ai changé ici ou là quelques petites choses, ne serait-ce que pour qu'on ne reconnaisse pas le personnage principal et qu'on ne puisse pas le retrouver, évidemment.
Donc Paul Darigrand ne s'appelle pas
Absolument,
Paul Darigrand.
Absolument, bien sûr, il n'est pas né à l'endroit où je l'ai fait naître, etc. Donc il y a comme ça, j'ai brouillé les pistes pour être certain qu'on ne le retrouverait pas, et pour protéger son intimité. Et l'autre chose, c'est que... quand vous faites un récit, un témoignage, vous mettez les gens à l'écart. C'est-à-dire, vous dites, je vais vous raconter mon histoire, vous la prenez, vous la prenez pas. Moi, mon ambition, elle n'était pas du tout ça. Mon ambition, c'est peut-être très immodeste, c'était de faire littérature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous racontez une histoire en espérant que les gens vont lire la leur, qu'ils vont entrer dedans et qu'ils vont reconnaître quelque chose d'eux-mêmes. Et là, le livre devient un objet de littérature.
Quitte à passer par la littérature de genre, oui, pour bien détourner, effectivement, les codes du genre. Philippe Besson, votre précédent livre, un personnage de roman avait pour héros Emmanuel Macron à la conquête du pouvoir. Vous êtes un ami du couple présidentiel, ça tout le monde le sait. Quand le président vous a nommé le 30 août dernier consul à Los Angeles, la presse y a vu une récompense pour service rendu. Cela n'a pas dû vous surprendre.
Ah, rien ne m'a surpris dans ce qui a été dit à ce moment-là. J'en connais trop sur la nature humaine pour être véritablement surpris. J'ai juste été néanmoins étonné par deux ou trois choses. La première, c'est que on a parlé d'une nomination, mais de nomination, il n'y a point. C'est une fake news. C'est-à-dire qu'on, vous savez, pour être nommé consul, il faut qu'il y ait un décret nominatif. Il n'y a pas de décret nominatif en voyant Philippe Besson à Los Angeles.
On vous a juste proposé.
Pas du tout. On est effectivement au stade de la discussion, de la conversation. Il n'y avait pas de nomination officielle du tout. Mais ça, il aurait fallu faire un travail de journaliste pour le savoir. Et certains, sans doute, ont dû oublier qu'ils avaient une carte de presse et que peut-être ils auraient dû vérifier. Donc, il n'y a pas eu ça du tout. Qu'il y ait des conversations avec le président de la République et que par ailleurs le président de la République souhaite faire en sorte que les consuls généraux puissent ne pas être seulement des fonctionnaires. Parce que, en fait, aujourd'hui, les consuls généraux sont forcément issus de la fonction publique, à la différence des ambassadeurs, qui ne le sont pas forcément, eh bien le président de la République a décidé que dorénavant, on pourrait nommer aussi à ces postes-là des artistes, des humanitaires, des ingénieurs, des médecins, etc. Bon. Pour ce faire, il a passé un décret en Conseil des ministres, et ce décret a été attaqué devant le Conseil d'État par les syndicats du ministère des Affaires étrangères qui considèrent qu'il faut forcément être fonctionnaire pour être consul. Le recours devant le Conseil d'État sera, je crois, examiné à l'été prochain. Donc, on verra en fonction de ce que sera la décision du Conseil d'État s'il y a lieu de reprendre. Non, mais s'il y a lieu de reprendre ou non les conversations avec le président de la République. C'est-à-dire que si le décret est validé, j'imagine que je reprendrai mes conversations avec le président de la République sur ce sujet. Et si le décret est invalidé, il n'y aura pas lieu de reprendre les conversations.
Un certain Paul Darigrand, c'est votre dernier roman, Philippe Besson. Une fois de plus, vous nous scotchez de la première jusqu'à la dernière phrase, je peux le dire, parce qu'il y a un roman. Mais je ne peux pas en dire plus. Merci d'être passé ce matin.
Merci à vous.